Bien, bonjour à tous, c'est un honneur de pouvoir prêcher ici aujourd'hui et de pouvoir dispenser vraiment la parole de Dieu. Hop, est-ce que ça tient? C'est bon. Alors avant de commencer le texte d'aujourd'hui, donc Ruth chapitre 1, juste une citation que je trouve vraiment très intéressante et qui, je pense, va vraiment résumer le message d'aujourd'hui. C'est une citation d'un grand homme politique. J'ai essayé de faire des recherches pour savoir vraiment dans quel contexte il a dit ça et j'ai pas trouvé. Et j'étais un peu déçu parce que la première fois que j'ai entendu cette citation, c'était dans un jeu vidéo. C'était il y a 8 ans. Et cette citation, j'aimais bien la citer pour rigoler, mais maintenant que j'ai étudié le texte, ça me fait moins rire. Mais c'est quand même toujours intéressant. Et cette citation dit: Ne vous contentez pas d'une vie facile, mes amis, cherchez à être les plus forts. C'est John Kennedy qui a dit cela. Dans quel contexte, je ne sais pas. Peut-être David le sait, il me dira peut-être plus tard, mais moi, je ne sais pas. Mais en tout cas, je pense que c'est une citation intéressante. Donc, je répète, ne vous contentez pas d'une vie facile, mes amis, cherchez à être les plus forts. Et l'idée, peut-être, derrière cette citation, avec le texte qu'on va lire, c'est que l'homme intérieur se fortifie dans la douleur et dans les épreuves. Et c'est dans les épreuves aussi que la fidélité est vraiment testée. Alors, quelques questions qu'on peut se poser. Pourquoi, en fait, les chrétiens d'aujourd'hui, donc moi, ainsi que vous, pourquoi nous n'arrivons pas vraiment à être fidèles à Dieu pendant les épreuves? Pourquoi on n'arrive pas vraiment à faire confiance à Dieu? Pourquoi sommes-nous aussi douteux? Et pourquoi nous doutons aussi de la confiance en Dieu? Et quelle est la solution pour vraiment remédier à ce problème? Et avant de lire le texte, une petite histoire pour parler justement de la fidélité et des épreuves. Je vais vous parler d'un homme qui s'appelle Jean-Pierre Adams. Jean-Pierre Adams, il est né à Dakar le 10 mars 1948. Et à l'âge de 8 ans, il voyage avec sa grand-mère dans une ville qui s'appelle Montargis. C'est à côté d'Orléans, là où je viens. Et il se fait adopter par une famille et finalement, il prend le chemin du football. Il devient footballeur. Et donc Jean-Pierre Adams, ensuite, en 1969, il fait sa carrière de footballeur. Il rencontre une femme qui s'appelle Bernadette. Il l'épouse et tous les deux vont avoir deux enfants. Ensuite, en 1972, ce Jean-Pierre Adams est appelé en équipe de France et il forme avec un autre joueur qui s'appelle Marius Trésor une grande défense en fait. Vraiment des deux joueurs qui vont vraiment faire grandir la France au niveau de la défense. Et donc on voit qu'il est vraiment au top de sa carrière. Mais le souci, c'est que en 1982, donc 10 ans après les événements, 10 ans après son appel en équipe de France, Jean-Pierre va se blesser. Il va se blesser gravement et va être opéré du genou. Donc l'intervention, normalement, quand on opère du genou, quand on est footballeur, c'est pas non plus très grave. Mais là, c'est ce qui va se passer, c'est assez grave, c'est que l'intervention va mal tourner, on va faire une erreur d'anesthésie et Jean-Pierre Adams va se trouver dans un coma végétatif. Et jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, il est toujours dans ce coma végétatif. Donc ça fait 39 ans que Jean-Pierre Adams est dans le coma. Donc il peut manger, il peut respirer, mais il ne peut plus parler. Et pourtant, sa femme Bernadette, qui est toujours en vie et qui a 74 ans aujourd'hui, est toujours à ses côtés. Et elle continue de veiller sur lui, elle continue vraiment de s'occuper de lui, de faire ce travail d'assistante. Et pourtant, Jean-Pierre Adams peut-être ne la reconnaît même plus. Peut-être qu'il ne sait même plus que. Il sait peut-être que c'est sa femme, mais il ne la reconnaît plus comme avant. Et pourtant, elle continue de rester à ses côtés, elle continue de s'occuper de lui, et on peut se poser la question, pourquoi? Alors, c'est une épreuve terrible. Son mari a eu un coma, mais toutes ces années, elle aurait pu partir, mais elle reste à ses côtés, elle reste fidèle, attachée à son mari. C'est des questions qu'on peut se poser, et je pense que cette histoire va nous montrer en fait un parallèle avec l'histoire que nous allons lire aujourd'hui dans Ruth chapitre 1. Donc, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Ruth chapitre 1. Et on va lire ensemble ce texte pour voir le lien avec cette histoire et tout ce qui a été dit en introduction. Dans Ruth chapitre 1, je lis à partir du premier verset. Ruth chapitre 1, premier verset, c'est la parole de Dieu. Au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Élimélec, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses deux fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab et ils y vécurent. Puis Élimélec, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses deux fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Verset 6, alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Elle sortit du lieu où elle vivait, ses deux belles-filles avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Verset 8, Noémie dit à ses deux belles-filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bienveillance avec vous, comme vous l'avez fait, pardon, envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous donne à chacune de trouver du repos dans la maison d'un mari. Elle les embrassa. Elles se mirent à sangloter. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Verset 11, Noémie dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles, allez, car je suis trop vieille pour appartenir à un homme. Et quand je dirai, il y a de l'espoir pour moi, quand cette nuit j'appartiendrai à un homme et que je mette des fils au monde, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela d'appartenir à un homme? Non, mes filles, car mon sort est plus amer que le vôtre, et la main de l'Éternel s'est abattue sur moi. Elles sanglotèrent encore. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Noémie dit alors, voici que ta belle-sœur est retournée à son peuple et ses dieux. Retourne à la suite de ta belle-sœur. Ruth dit, ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Noémie, la voyant résolue à aller avec elle, cessa de lui parler. Elles marchèrent toutes les deux jusqu'à leur entrée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville fut étonnée à leur sujet. Et les femmes disaient, « Est-ce là Noémie ?» Verset 20, elle leur dit, « Ne m'appelez pas Noémie, appelez-moi Mara. » Mara qui signifie « amère. » « Car le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère. Comblée, j'étais partie, vide l'Éternel me ramène. Pourquoi m'appelez-vous Noémie ? L'Éternel a témoigné contre moi. Le Tout-Puissant m'a fait du mal. » Verset 22, ainsi revint Noémie, et avec elle sa belle-fille, Ruth la Moabite, qui revenait de la campagne de Moab. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Jusqu'ici, lecture de la parole de Dieu. Donc ce texte va nous montrer trois choses que, premièrement, suivre Dieu implique forcément des épreuves, que notre fidélité se mesure dans les épreuves, et que Dieu n'oublie pas ceux qui ont traversé les épreuves. Donc, suivre Dieu implique des épreuves. On voit déjà ça à partir du premier verset. On nous dit que, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour séjourner dans la campagne de Moab. On nous dit qu'on est à la période des juges. La période des juges en Israël, c'est une période de déchéance, de décadence morale et d'asservissement aussi d'Israël par des peuples étrangers. Israël se détourne des commandements de l'Éternel. Et l'Éternel, du coup, conformément à ce que dit la loi, va envoyer des peuples ennemis pour asservir Israël. Et ça va être aussi un moment où Israël va se détourner vraiment de la loi de Dieu, va commencer à commettre beaucoup de péchés. Et je pense qu'il y a un verset dans le livre des Juges qui résume la situation de cette époque. C'est dans Juges chapitre 17, verset 6. « En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. » Donc il y avait chacun marchait non selon la loi de l'Éternel, mais selon ce qu'il pensait. On nous dit qu'il y avait une famine aussi à Bethléem. Il faut d'abord savoir que Bethléem, en hébreu, c'est littéralement la maison du pain. Mais ici, on voit que le pain manque parce que Dieu est en train de juger aussi son peuple. On est à la période des juges. On voit aussi qu'une famille israélite est forcée de s'exiler. Hein, on lit ça, un homme de Bethléem, de Juda, parti pour séjourner dans la campagne de Moab. Ils vont pas n'importe où, ils vont dans le pays de Moab. Moab qui est un peuple ennemi d'Israël. Donc c'est une situation vraiment très compliquée pour le peuple d'Israël, mais également pour cette famille. Donc les Moabites, donc un peuple ennemi d'Israël, ce sont des descendants de Lot. Lot qui était le neveu d'Abraham. Et Lot avait eu des relations incestueuse avec ses filles, et les enfants qui sont descendus de cette relation, les descendants, ce sont les Moabites, mais également les Ammonites. Et on voit que ces peuples étaient ennemis avec Israël et que Dieu avait jugé que ces peuples ne devaient pas avoir de relation avec Israël. Et donc on voit que ce texte, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc première épreuve, la famille quitte Israël. Deuxième épreuve, ensuite, il y a des morts qui commencent à venir. Déjà le mari, verset 3, puis Élimélec, mari de Noémie, donc le père de famille, donc mourut. Et elle resta seule avec ses deux fils. Et ça continue ensuite, non seulement le mari, mais également les deux fils. Verset 5, Mahlon et Kilion moururent aussi tous les deux. Et la femme resta privée de ses deux enfants et de son mari. Donc là, on a l'impression, c'est un peu comme l'histoire avec Job. Job qui avait toute sa famille, qui avait ses biens, qui avait beaucoup de choses et qui a tout perdu. En si peu de temps, il a perdu ses biens, il a perdu tout ce qu'il avait, il a même perdu ses enfants, il est resté avec sa femme. Et c'était terrible, il a même été frappé d'un ulcère malin. Donc quand les épreuves arrivent, en fait, il ne faut pas non plus être surpris ou étonné, comme si c'était quelque chose de nouveau ou comme si c'était quelque chose qu'on ne s'y attendait pas. On doit s'attendre aux épreuves. Et les gens d'Israël devaient comprendre qu'à l'époque où ils étaient, leur désobéissance impliquait forcément les sanctions de la loi de l'Alliance. Mais quand bien même, comme on voit le cas de Job, on obéit à la loi de l'Éternel, les épreuves aussi arrivent. Et là, on peut se poser la question, mais alors, mais Job n'a rien fait. Comment ça se fait qu'il a des épreuves? Eh bien, Dieu nous dit que c'est Jésus qui nous dit dans l'évangile de Jean que vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Donc les tribulations doivent être là, même pour ceux qui marchent fidèlement avec Dieu. Donc choisir la voie de Dieu, c'est vraiment choisir aussi une vie d'épreuve, c'est choisir vraiment le chemin de la souffrance. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même aussi a connu le chemin de la souffrance, on va le voir ça tout à l'heure. Mais donc, il ne faut pas vraiment se dire que les épreuves, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir, qu'on ne doit pas avoir. Ça doit arriver dans la vie du chrétien. Et à la lumière de ce texte, on va comprendre pourquoi les épreuves sont là et pourquoi Dieu envoie ce genre d'épreuves. Et il y a aussi une autre raison. On l'a vu, on l'a vu aussi dans les textes qu'on a lus au début, qu'à cause du péché, à cause du péché, nous avons des épreuves. À cause de la chute dans le jardin d'Éden, nous avons des épreuves, nous avons des tribulations. Donc ça ne doit pas être une surprise pour chacun de nous. En effet, les épreuves sont suivre Dieu implique des épreuves. Et ensuite, deuxièmement, notre fidélité se mesure dans les épreuves. Donc on a vu le contexte, on a vu ce qui se passe, on a vu que le père est mort, on a vu aussi que les fils sont morts, il ne reste plus donc que la mère ainsi que les deux belles-filles. On arrive donc au verset 6 où on nous dit que alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint de la campagne de Moab, car elle avait appris dans la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Les versets 6 et 10 vont nous montrer deux attitudes très opposées. D'un côté, on a l'attitude des belles-filles de Noémie, qui vont vraiment tout faire pour rester avec leur belle-mère. Et leur belle-mère, quant à elle, qui vraiment a une attitude plutôt de rentrer chez vous, je préfère vraiment que vivre mon sort toute seule. D'un côté, on voit que Noémie dit que Orpa et Ruth doivent partir, doivent refaire leur vie. C'est vrai ce qu'elle dit. Elle dit vraiment que l'Éternel vous donne à chacune, au verset 9, de trouver du repos dans la maison d'un mari. Donc elle les renvoie. Donc elle leur dit, ne restez pas avec moi, mon sort est vraiment trop amer. Ce n'est pas la peine de rester avec moi. Et pourtant, on voit au verset 10 l'insistance des belles-filles de Noémie. Elles disent, non, nous irons avec toi, vers ton peuple. Ça, c'est déjà une marque de personnes qui sont attachées à leur belle-mère, mais on va voir que finalement cet attachement doit aller encore plus loin. Donc les paroles de Noémie, c'est un peu aussi l'attitude que parfois on peut aborder dans l'épreuve. On s'apitoie sur son sort, on ne fait pas assez confiance en Dieu. Je veux dire, lisons les versets 11 quand elle dit à leur fille, pourquoi viendriez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, retournez. Donc c'est une attitude vraiment, certes les paroles paraissent vraiment logiques, mais quelque part c'est une attitude vraiment de renoncement, de se dire que non, je ne veux pas subir ces épreuves, non, laissez-moi vraiment vivre toute seule, je n'ai pas besoin de soutien. Alors qu'on a besoin de soutien dans les épreuves, on a besoin de personnes pour nous assister, mais Noémie ne veut pas que les belles-filles restent avec elle. Et on voit au verset 14, là ça va encore beaucoup plus loin. Parce que les belles-filles de Noémie sanglotent encore, et Orpa embrasse sa belle-mère, mais Ruth s'attache à elle. Donc vraiment que Noémie est allée assez loin et on voit que c'est la troisième fois qu'elle dit retournez. Donc ça commence déjà au verset 8, elle dit retournez chacune à la maison de votre mère. Au verset 11, retournez mes filles. Au verset 12, retournez mes filles. Donc trois fois elle insiste, retournez, retournez, retournez. Et c'est quelque chose qui est assez récurrent dans la Bible, avec le chiffre 3, quand il se passe trois fois quelque chose va se passer juste après. Par exemple, on voit que c'est après une troisième faute que le roi Saül a perdu la royauté. On voit que c'est après trois fois que Samuel a répondu à l'Éternel lorsque Dieu l'a appelé dans la nuit. On voit que c'est trois fois après que Balaam a frappé l'ânesse que Dieu se manifeste. On voit que par exemple Samson avec Dalila, c'est après une troisième tentative qu'il a avoué son secret et qu'il a été capturé par les Philistins. Jésus aussi, il a prié trois fois à Gethsémané avant d'être assisté par un ange. Paul a prié trois fois le Seigneur concernant son écharde dans la chair. Donc dans la Bible, il y a vraiment à chaque fois, trois fois il se passe quelque chose et à la troisième fois, quelque chose se passe. Et ici, au verset 14, eh ben, à la troisième fois, Orpa s'en va, mais Ruth reste. Et Orpa fait un choix, en fait, quand on lit comme ça, un choix qui est juste et qui est logique, parce qu'elle voit que sa belle-mère lui dit de rentrer, et donc elle rentre chez elle, même si ça peut paraître, on peut dire, à contre-cœur, mais elle fait un choix totalement logique. Mais on voit de plus près, en fait, que ce geste traduit quelque chose de plus profond. Ça montre que le cœur d'Orpa n'est pas vraiment attaché à sa belle-mère et qu'elle veut retourner à ses dieux, retourner à sa vie passée. Et qui sait en fait si en n'allant pas à Bethléem avec Noémie, Dieu n'allait pas lui donner à elle, mais aussi à sa sœur, un nouveau mari. Et qui sait peut-être si même Dieu n'allait pas les bénir. Donc quelque part, son départ traduit une sorte d'infidélité et de manque de foi. Orpa en fait voit peut-être à court terme, elle n'a pas finalement résisté à cette épreuve de rester avec sa belle-mère. Et c'est l'attitude de beaucoup devant l'adversité. C'est le choix de la facilité, de la fuite. C'est le choix de se détourner. Mais ce n'est pas forcément le meilleur des choix. Et en fait, le choix d'Orpa, ça rappelle un peu son ancêtre Lot, qui avec Abraham en Genèse 13, Lot choisit les plaines reluisantes du Jourdain, et Abraham voit les terres plutôt désertiques de Canaan. Et donc, Lot va prendre le choix du Jourdain, et Canaan et Abraham va continuer sur les autres routes. Et pourtant, on voit la suite, Abraham a été béni, mais Lot n'a pas été béni comme Abraham. Et en fait, John Wesley, dans son commentaire de ce passage, nous dit que Orpa aimait Naomi, mais pas au point de tout quitter pour elle. Beaucoup disent qu'ils aiment Christ, mais ils abandonnent sa voie quand même. Pourquoi? Parce qu'ils ne l'aiment pas assez et ne sont pas assez, ils sont plus attachés à d'autres choses. Donc en fait, l'épreuve que Naomi a fait subir, volontairement ou involontairement, a fait subir à Orpa, a révélé sa vraie nature. Et a montré qu'elle n'était pas vraiment fidèlement attachée à elle. Et donc, des fois, Dieu peut permettre qu'une épreuve terrible survienne dans nos milieux pour montrer qui sont vraiment à lui et qui ne sont pas vraiment à lui. Et on va voir donc en fait que l'attitude de Ruth montre aussi que les apparences peuvent être trompeuses. Le verset 14, donc, Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Ruth, c'est vraiment l'amie fidèle. Quand on regarde dans le dictionnaire le mot fidélité, on dit que c'est quelqu'un qui est dévoué, qui est attaché à quelque chose, à quelqu'un, quelqu'un qui est constant dans ses sentiments, quelqu'un qui est constant dans ses affections et dans ses habitudes. Et on voit que Ruth va montrer vraiment que c'est une amie fidèle. La remarque pourtant de Noémie au verset 14, elle est pertinente. Elle dit que voici ta sœur est retournée à son peuple et à ses dieux, mais toi aussi tu peux retourner à la suite de ta belle-sœur. C'est vrai. Mais Ruth ne va pas marcher comme ça. Ruth préfère rester avec sa belle-mère. Et c'est un geste qui est fort. Et c'est un geste à nos yeux qui peut paraître déraisonnable, complètement fou. Personne de sensé ne peut faire ça alors qu'il y a une possibilité de refaire sa vie, il y a une possibilité de refaire une nouvelle vie avec une autre personne, avec sa famille et avec un nouveau mari. Elle choisit de rester avec sa belle-mère. Le choix d'Orpa, en fait, montre en apparence que c'est le bon choix, mais ce n'est pas le bon choix. Parce que la suite du texte montre que le choix de Ruth, c'était le vrai choix à faire, de rester avec sa belle-mère. Et Ruth montre, en fait, qu'elle a la foi en l'avenir et qu'elle est vraiment attachée à sa belle-mère, contrairement à Orpa, qui a un attachement présent, mais pas aussi profond que Ruth. Et on voit que le texte nous dit, mais Ruth s'attacha à elle. Le verset 14, vraiment, c'est le verset clé. Ruth s'attacha à elle. Et le prénom de Ruth est important. Ruth signifie amitié. Donc son attitude montre que ce n'est pas juste une personne qui s'attache comme ça, mais c'est une personne qui a vraiment des sentiments profonds. Et le geste de Ruth, en fait, si je peux donner une illustration très très simple, encore une fois, je vais encore parler du football. Ça me rappelle en fait un gardien de foot qui est italien, qui s'appelle Gianluigi Buffon. Et Buffon, en fait, en 2006, ce qui s'est passé, c'est qu'il jouait dans une équipe qui s'appelle la Juventus, Juventus Turin. Et en 2006, il y a eu un grand scandale dans ce pays. Il y a eu des matchs truqués. Donc cette équipe de la Juventus était impliquée dans des matchs truqués. Et donc du coup, il y a eu une sanction et ce club a été condamné à descendre en seconde division. Et donc, comme ils sont descendus en seconde division, il y a eu des problèmes financiers, il fallait baisser les salaires, il fallait vendre des joueurs. Et beaucoup de stars de ce club sont partis, mais lui, Gianluigi Buffon, est resté. Il a accepté de baisser son salaire et il est resté attaché au club. Beaucoup sont partis, beaucoup ont critiqué, mais lui, il est resté et il s'est battu pour que ce club remonte en première division. Donc, il a accepté la souffrance, il a accepté l'humiliation, il a accepté vraiment que son club passe par ces moments difficiles. Et finalement, le club est revenu difficilement en première division. Mais aujourd'hui, le club renaît entre guillemets de ses cendres et a retrouvé un standing qui lui était propre. Et donc, on voit par ce geste en fait que Gianluigi Buffon était un fidèle de ce club de la Juventus, même dans la difficulté. Donc, l'épreuve qu'a subie ce club a montré que c'était vraiment quelqu'un de fidèle, contrairement à d'autres qui étaient là juste simplement pour prendre l'argent et sont partis assez rapidement. Et on voit donc en fait que le geste de Ruth, c'est un peu ça. L'épreuve est arrivée, sa fidélité a été testée, mais elle est restée. Et le verset 16 montre encore comment elle est vraiment fidèle. Lisons vraiment les paroles de Ruth au verset 16. Ne me pousse pas à te quitter, à me détourner de tes pas. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple est mon peuple, et ton Dieu est mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que l'Éternel me fasse ceci, qu'il ajoute cela, si ce n'est pas la mort qui me sépare de toi. Ce sont des paroles très fortes. Alors que tout le monde a abandonné Noémie, même sa belle-fille, l'autre belle-fille est restée. Et Noémie se voit en fait soutenue, non pas par un Israélite, mais par une étrangère, par une Moabite. C'est très important de noter ça. Et on voit que Ruth vraiment s'identifie à la souffrance de sa belle-mère. Elle s'attache totalement, elle communie dans ses souffrances. Et ça nous rappelle une personne, ça nous rappelle simplement le Seigneur Jésus, qui lui-même, qui était au ciel avec le Père, qui vraiment vivait dans la gloire du Père, a accepté de quitter le ciel pour embrasser notre souffrance, pour souffrir avec nous, pour voir vraiment la misère dans laquelle nous étions. Et il a pris sur lui nos souffrances. Le prophète Ésaïe qu'on a lu au début nous dit dans Ésaïe 53, cependant ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Donc Ruth portait la souffrance de sa belle-mère sur elle, mais Christ a fait mieux, il a porté la souffrance de tout un peuple sur ses épaules. Il a communié dans les souffrances avec nous, il a demeuré avec nous, comme dit l'apôtre Jean dans son prologue. Il a vécu parmi nous, il a senti vraiment dans quelle souffrance nous étions, et il a communié avec nous le Seigneur Jésus. Donc les paroles de Ruth, en fait, montrent une autre chose aussi. Montre que sa vie, ça ne dépend plus de Moab, ça ne dépend plus de sa vie passée. Sa vie maintenant, c'est la vie avec le Dieu d'Israël, le Dieu de Noémie, le Dieu vivant. Elle ne se considère plus comme une Moabite, mais elle se considère comme une Israélite par adoption. Donc ce miracle, ça prouve qu'en fait, que même Dieu n'a pas vraiment abandonné Noémie et que Dieu a permis cette épreuve pour montrer que il est toujours présent et il est toujours là et qu'il faut lui faire confiance. Et les paroles de Ruth montrent aussi qu'au milieu de la souffrance, elle est prête à aller jusqu'au bout. Elle est fidèle à celle qui l'a gardée, à celle qui a veillé sur elle. C'est un reflet de Jésus, en fait, devant Satan dans le désert. Texte que nous avons lu tout à l'heure, Matthieu 4. Et comme Ruth, Jésus se trouve dans le désert pendant son épreuve. Là, nous sommes dans le désert de Moab. Et bien, de la même manière, Jésus est dans le désert. Il se fait tenter par Satan. Mais comme Ruth, Jésus va combattre et va réussir par triompher. Il va s'attacher à Dieu et il va refuser d'abandonner. Satan va le tenter trois fois, vous avez bien vu, si tu es le fils de Dieu, etc. Si tu es le fils de Dieu, prosterne-toi et adore-moi trois fois. Mais trois fois Jésus répond par la parole de Dieu et trois fois Jésus triomphe. Pourtant Jésus est affaibli, il a passé 40 jours et 40 nuits à jeûner et à prier et son corps a faim, mais il veut tenir bon, il a une mission, il doit sauver l'humanité. Et donc il refuse d'abandonner, il s'attache à son Père et des anges viennent le soutenir et le fortifier. Donc Jésus, C'est l'ami fidèle parfait. Ruth, ce n'est qu'un reflet, mais Jésus, c'est l'ami fidèle parfait. Et donc les deux, en fait, Ruth et notre Seigneur Jésus, montrent vraiment c'est quoi l'exemple d'être fidèle pendant l'épreuve. Et montrent que vraiment, on peut traverser l'épreuve victorieusement, non pas grâce à nous, mais par la force que Dieu nous donne. Et la consolation de Noémie vraiment se trouve chez Ruth la Moabite. Elle ne se trouve pas chez son mari qui est décédé, ni chez quelqu'un d'autre, mais vraiment chez une étrangère qui est en fait sa belle-fille. Personne ne pouvait la soutenir, il a fallu que le soutien vienne de quelqu'un d'autre. Et nous aussi, si nous voulons surmonter les épreuves, si nous voulons être fidèles à Dieu constamment dans les épreuves ou hors des épreuves, notre soutien ne peut pas venir de nous-mêmes, il doit venir de quelqu'un d'étranger, c'est-à-dire de Jésus-Christ tout simplement. C'est lui qui nous rend capables, c'est lui qui nous aide à être fidèles et à faire la volonté du Père par sa grâce. Donc voilà, on a vu les deux premiers points. Troisième point, Dieu n'oublie pas ceux qui ont traversé les épreuves. À la fin du texte, on va nous montrer des choses assez importantes. On voit donc au verset 19 que Ruth et Noémie rentrent et Noémie commence à parler. Elle commence à parler, elle commence à dire que voilà, Dieu m'a abandonné, le Tout-Puissant m'a rendu la vie bien amère, etc., etc. J'étais comblé, maintenant je suis vide. Donc on a l'impression, quand on lit ça, au vu de tout ce qui a été dit juste avant, que soit Noémie est aveugle, ou soit elle est tout simplement ingrate. Pourquoi? Parce que Ruth est restée avec elle. Il faut le rappeler, elle a dit à ses belles-filles de partir, mais il y en a quand même une qui est restée. Donc elle doit comprendre quand même que c'est le Seigneur qui est en train d'agir, mais elle ne le voit pas. Et l'auteur en plus nous a montré que Dieu avait commencé à bénir Israël. Rappelez-vous le verset 6, que Dieu est intervenu en faveur de son peuple et lui a donné du pain. Donc la provision revient. Et pourtant, tous ces petits indices devraient travailler dans la vie de Noémie, mais elle ne comprend toujours pas. Et le verset 22 aussi nous donne une indication importante. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Donc la bénédiction revient en Israël, et donc c'est un signe que Dieu est en train d'agir. Mais pourtant, le souci de Noémie est ailleurs. Elle reste focalisée sur son problème. Elle reste focalisée sur le fait qu'elle a perdu son mari, elle a perdu ses fils. Et ça, elle n'arrive pas à comprendre. Elle est aveuglée par la situation. Elle a du mal à voir que Dieu est en train d'agir malgré l'épreuve qu'elle est en train de subir. Ça me rappelle un peu mon exemple. C'était il y a 2 ans. Avant de commencer mon travail comme animateur périscolaire, j'avais terminé mes études et je cherchais justement un travail. Et j'ai postulé un peu partout, j'ai postulé dans les offices de tourisme, j'ai postulé aussi dans un travail, c'était travailler à la maison Jeanne d'Arc, donc faire du tourisme et faire parler de Jeanne d'Arc. Et moi, j'avais focalisé mon travail, c'était la maison Jeanne d'Arc. Et je m'attendais en fait à vraiment recevoir de là. Sauf que j'avais envoyé aussi à la mairie, et on m'avait appelé une fois, on m'a dit qu'il y aurait un rendez-vous. Mais moi, je me plaignais tout le temps, je me disais, mais voilà, je ne comprends pas, je n'ai pas le travail, pourtant j'ai un bon dossier et tout, je ne comprends pas, je me plaignais, j'étais focalisé sur ce problème. Et finalement, il a fallu qu'on me rappelle une deuxième fois que j'aille à l'entretien et j'ai été recruté comme animateur. Et c'est plus tard, à long terme, que j'ai compris que oui, Dieu avait déjà répondu, mais que j'étais trop focalisé sur le problème. Et donc ça montre quelque part que j'étais ingrat, que j'étais aveuglé par la situation. Et ça montrait aussi mon manque de foi, mon manque vraiment de confiance dans la bonté de Dieu. Un peu comme Noémie ici, alors que Dieu est en train de lui répondre, elle ne comprend pas, elle ne voit pas les petits indices. Pourtant, la présence de Ruth, c'est l'assurance que Dieu n'a pas abandonné Noémie, contrairement aux apparences, et que la situation va s'améliorer. Et donc, c'est aussi un avertissement pour chacun de nous de faire attention, de comprendre le langage de Dieu, comprendre que Dieu nous répond des fois au moment où on ne s'y attend pas et qu'il faut aussi observer, il faut arrêter d'être obnubilé par nos soucis et par les problèmes et de regarder d'une vue d'ensemble et de voir que Dieu est en train aussi d'agir. Ensuite, la présence de Ruth, c'est un peu l'exemple de la présence de Jésus pendant les épreuves. Parce que Jésus a dit dans Matthieu 28, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a promis d'être avec nous même pendant les épreuves. Hébreux chapitre 7, 25 nous dit que nous n'avons pas un sauveur incapable de faillir à nos, de pas compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté en toutes choses pour nous soutenir. Ça nous dit aussi que nous avons un intercesseur à la droite du Père qui intercède pour nous chaque jour. Et Romains chapitre 8, à partir du verset 28, nous rappelle que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Donc Christ est toujours là. Il intercède, il se tient auprès de ses amis dans la douleur, dans la souffrance. Ruth se tenait auprès de Noémie. Eh bien, Dieu se tient auprès de nous par la personne de Jésus-Christ et par son esprit aussi. Donc nous ne sommes jamais seuls. Continuons à faire la volonté de Dieu, nous ne serons jamais seuls. La présence de Jésus maintient notre foi et maintient aussi notre vie en Dieu, entre guillemets. Parce que si Jésus n'était pas là, depuis longtemps nous aurions abandonné. Mais c'est Jésus qui nous rend capables de traverser les épreuves et de triompher par sa grâce. Et la fin du livre, en fait, de Ruth, si vous ne connaissez déjà pas cette histoire, la fin du livre de Ruth montre que Dieu récompense ceux qui ont traversé fidèlement l'épreuve. Ruth va rencontrer un parent de Noémie, qui s'appelle Boaz. Et cet homme qui est riche et puissant va finir par épouser Ruth. Ils vont avoir des enfants, dont un qui s'appelle Obed. Et ce Obed sera le père d'Isaïe. Et Isaïe sera le père de David. Et de David va sortir Jésus-Christ, des siècles plus tard. Donc on voit finalement que dans l'histoire de la rédemption, Ruth a quand même joué un rôle important. Elle qui était Moabite va finalement rentrer par adoption dans le plan de Dieu. Et ça montre aussi l'inclusion des païens dans la famille de Dieu. Et c'est que vraiment que Dieu n'est pas réservé à un seul peuple, mais que comme on l'a eu au début de ce sermon, que tous les peuples se rassemblent devant Dieu et se prosternent devant Dieu. Et donc même une païenne a bénéficié de la grâce de Dieu. Donc ça montre aussi que Jésus-Christ lui-même, lui qui a souffert dans le désert avec Satan, mais qui a triomphé et qui a aussi souffert à Gethsémané et qui a souffert pendant la Passion, il a été récompensé par Dieu. Il a traversé la plus grande épreuve qui lui était proposée et il a remporté le combat. On nous dit dans Philippiens 2 que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Dans Matthieu 28, on nous dit que Jésus lui-même dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre parce qu'il a vaincu. Dans le psaume 110 et le psaume 102, c'est les psaumes d'intronisation. On voit que Jésus est introduit par le Père et le Père lui dit: Assieds-toi à ma droite maintenant que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Comme Jésus a été fidèle dans l'épreuve, Jésus a été constant dans l'épreuve, Jésus s'est attaché à l'Éternel et il a communié dans nos souffrances, Dieu l'a exalté, il l'a mis à la plus haute place. Et aujourd'hui, Jésus-Christ règne et il est en train d'intercéder et il fait la médiation pour son peuple, pour l'Église. Donc c'est la victoire de celui qui est appelé le témoin fidèle par l'apôtre Jean. C'est un encouragement pour nous aussi qui traversons dans les épreuves. Nous avons quelqu'un de fidèle, quelqu'un de plus grand, quelqu'un qui peut nous assister, quelqu'un qui peut nous aider à traverser les épreuves et à faire confiance davantage à Dieu. Donc voilà, en fait, ce texte, qu'est-ce qu'il nous apprend? Ce texte nous montre vraiment la souveraineté de Dieu dans les épreuves. On voit qu'une famille d'Israélites part chez un peuple ennemi, les fils se marient avec les gens de ce peuple, alors que les mariages entre ces deux peuples ne passent pas. Et on voit que le salut d'Israël ne vient même pas d'Israël. Le salut de cette famille ne vient même pas d'Israël, il vient des Moabites. Donc c'est quelque chose de... On ne comprend pas, mais finalement c'est dans le plan de Dieu, car dans la suite de l'histoire, comme je l'ai dit, on voit que de Ruth va venir David, et va aussi venir Jésus-Christ. Et on voit que le prénom de Ruth aussi, c'est un prénom qui n'a pas été choisi par hasard. Elle s'appelle Ruth, c'est l'amitié, c'est la fidélité, c'est l'attachement. Donc c'est une personne qui est vraiment s'attache et sur qui Noémie a pu compter malgré tout. Mais en fait, Ruth, il ne faut pas se tromper, ce n'est pas un manuel pour nous montrer comment être fidèle devant Dieu, parce que nous ne sommes pas fidèles. Nous ne faisons pas confiance en Dieu. Nous, en fait, si on essaie de se trouver dans l'histoire, nous sommes des Noémies. Nous ne sommes pas des Ruth, nous sommes des Noémies. Parce qu'on se plaint tout le temps, on est inquiet, on manque de foi, on est centré sur nous-mêmes. Et pourquoi c'en est ainsi? Pourquoi on n'arrive pas à faire confiance en Dieu dans et en dehors l'épreuve? Bah, peut-être c'est parce que nous manquons de sagesse, nous manquons vraiment d'attachement à la parole de Dieu, d'attachement vraiment à la vie de prière. Et il faut vraiment rentrer en nous-mêmes, il faut vraiment confesser notre incrédulité et demander à Dieu son aide. Demander à Dieu qu'il nous aide à être plus fidèles, à traverser les épreuves victorieusement. Il faut faire en fait comme le père de ce démoniaque que Jésus avait guéri dans Marc chapitre 9. Il avait dit: Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc des fois, il faut crier à Dieu, se repentir, demander à Dieu qu'il nous aide à être plus fidèles, à être plus constants et à s'attacher à lui, non pas par nous, mais par Jésus-Christ, parce que c'est lui le témoin fidèle, c'est lui l'ami fidèle, c'est lui qui nous aidera à être fidèles. Et comme on l'a vu dans tout ce texte, les parallèles entre Ruth et Jésus sont saisissants. Ruth a accepté la souffrance, elle s'est totalement détachée de sa vie passée, de sa vie de Moabite, de sa vie vraiment qu'elle avait de païenne, pour s'attacher à une vie de souffrance. Elle ne savait pas où elle allait. Elle a préféré continuer avec Noémie, continuer dans la souffrance, et pourtant Dieu l'a récompensée. Donc quelque part, le chemin de la souffrance avec Dieu, c'est toujours le meilleur des chemins. Parce qu'on voit que non seulement Ruth, mais également notre Seigneur Jésus lui-même a accepté la souffrance, lui qui est appelé le serviteur de l'Éternel par Ésaïe. Il a porté sur lui nos souffrances du désert à Gethsémané, à Golgotha, et Dieu l'a récompensé. Dieu l'a récompensé, Dieu l'a exalté, il lui a donné le plus grand des noms, et il est désormais le Seigneur, et il est le roi, et il est assis sur son trône. Donc on voit que Ruth et Jésus-Christ, il y a des parallèles. Il ne faut pas dire que Ruth, c'est Jésus-Christ, non, il y a juste des parallèles. Ruth n'est qu'un type, un exemple, mais c'est Jésus-Christ qui est véritablement le plus grand des exemples. Et donc si vraiment, parmi nous, nous nous posons des questions, on se dit, mais comment faire? Comment faire alors que les épreuves sont là? Je n'arrive pas à faire confiance en Dieu, je doute, je suis incrédule, je suis un peu comme Noémie. Il faut regarder tout simplement à Jésus. Il faut regarder sur qui on peut s'appuyer. Noémie n'avait été obnubilée par ses problèmes, mais elle ne comprenait pas que le soutien était là. Mais nous avons la grâce aujourd'hui de comprendre que nous avons un soutien, c'est Jésus-Christ. Regardons à Jésus qui s'est attaché à nous et mettons vraiment toute notre confiance en lui. Mettons vraiment toute notre foi en lui. C'est lui qui nous soutiendra parce qu'il est fidèle. Il est fidèle à Dieu le Père. Il fait toujours sa volonté. Nous n'arrivons pas à faire la volonté de Dieu. Nous sommes inconstants. Nous sommes, à un moment on dit oui, à un moment on dit non. À un moment on s'attache, à un moment on se détache. Il faut regarder à Jésus-Christ, demander sa grâce par son esprit qui nous aide à être fidèles. Et c'est son esprit qui va nous rendre fidèles. Pourquoi? Par exemple, quand on lit Galates chapitre 5, on nous parle du fruit de l'esprit. Et dans tout le fruit de l'esprit, il y a l'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la patience, la douceur, la maîtrise de soi et la fidélité aussi. Dans d'autres versions, c'est la foi. Donc c'est l'esprit qui va nous rendre fidèles. L'esprit du Seigneur Jésus va nous rendre fidèles à Dieu pour marcher avec lui, pour vraiment croire davantage en sa parole et en ses promesses. Donc si nous vivons selon l'esprit, marchons selon l'esprit, demandons de l'aide au Saint-Esprit, demandons de l'aide à notre Seigneur qui nous écoute. Et pour terminer, un petit texte aussi dans le livre des Hébreux au chapitre 12, pour vraiment conclure en fait ce texte et en fait résumer ce message. Hébreux chapitre 12, à partir du premier verset, nous lisons Hébreux 12 verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Verset 2, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui la mène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc fixons les regards sur Jésus pour courir l'épreuve avec persévérance. Ne vous contentez pas d'une vie facile, mes amis, cherchez à être les plus forts, disait John Kennedy. En effet, nous ne nous contentons pas de fuir les problèmes, nous ne nous contentons pas de faire comme Noémie, mais cherchons à être les plus forts, non pas en regardant nous-mêmes, mais en regardant à celui qui est plus grand que Ruth, à Jésus-Christ. Donc que Dieu nous aide en fait à traverser l'épreuve par sa grâce, en regardant à son Fils, en comptant sur son Fils, qui est le plus grand, qui est le plus fidèle et qui lui-même a gagné la plus grande des épreuves, c'est-à-dire la victoire sur le péché et sur la mort. Dieu nous soutiendra, il nous rendra fidèles par sa grâce si nous le demandons et si nous nous confions en lui. Que Dieu vous bénisse.
Nous allons chanter dans le carnet le numéro 24, C'est toi Jésus.